Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Vous êtes expert en cybersécurité et aujourd'hui, je voudrais qu'on discute avec vous de l'augmentation de la cybercriminalité en Belgique. Rien que sur la première moitié de l'année, la fraude informatique et le hacking affichent déjà des chiffres inquiétants. Comment est-ce que vous expliquez ça?
Mais dans un premier temps, je dirais qu'on peut tenir compte du fait que beaucoup de gens sont en télétravail, par exemple, assez régulièrement, et qu'ils n'ont pas forcément un environnement au domicile qui est aussi sécurisé que celui qu'ils peuvent avoir chez leur employeur. Et donc, dans ces cas-là, ils peuvent effectivement, n'étant pas en contact régulier avec les membres du personnel de leur employeur, ils peuvent se retrouver à recevoir des messages auxquels ils vont donner suite, en ouvrant par exemple un document et en permettant l'installation d'un logiciel sur leur ordinateur qui permettra à ce moment-là d'accéder à des informations au niveau des serveurs de leur employeur.
Alors, les communes, les hôpitaux et même la police n'est plus à l'abri. Est-ce que vous trouvez qu'on est bien préparé en Belgique pour lutter contre cette cybercriminalité?
Mais disons qu'il y a effectivement des efforts qui sont faits pour améliorer la sécurité globale, mais malheureusement, je veux dire, l'inventivité, si vous voulez, des pirates informatiques, surtout liés à certains États qui deviennent quelque part utilisateurs de hackers pour pouvoir perturber des systèmes ou pouvoir collecter des informations, on voit que ça se renforce. Et donc, de plus en plus, on voit qu'effectivement, pas mal d'États profitent justement de l'intrusion numérique pour perturber, pour collecter et voilà, c'est une tendance qui va certainement se développer encore.
Alors, sans citer personne, Olivier Bogart, on pense souvent à la Russie tout de même quand on parle de pirates informatiques. Est-ce que la guerre en Ukraine a empiré les choses en Europe?
Mais il y a certainement eu des intrusions qui peuvent être liées à des hackers d'État. On l'a vu également avec des pays asiatiques, hein. Donc, il y a clairement une activité, je pense, qui consiste à effectivement soit se documenter un peu sur des tendances de cet État, d'un autre État, etc., de manière à pouvoir ajuster sa propre politique dans le pays concerné. Mais on a également des volontés de perturber de façon à ce que ça soit beaucoup plus complexe dans le pays qui a été attaqué, parce qu'il doit à ce moment-là développer rapidement des solutions pour pouvoir retrouver l'activité complète de son environnement.
Oui. Est-ce que, comme en Israël, le maillon faible, si j'ose dire, c'est la société civile?
Je pense que le citoyen n'est pas toujours effectivement informé des tendances et je pense qu'il est important qu'une communication, je veux dire d'État, auprès des citoyens puisse renforcer leur vigilance par rapport à ce qu'ils peuvent recevoir comme message, ce qu'ils peuvent recevoir comme notification. Gardons aussi à l'œil le fait que beaucoup de gens sont désormais hyperactifs, mais par l'intermédiaire de leur smartphone, ce qui ne leur permet pas toujours de voir de qui vient effectivement le message reçu. On voit un nom d'une personne ou d'une structure connue, mais quand on regarde en cliquant le mail, on voit que ce n'est pas l'adresse mail officielle. Mais ça, on ne le
Bien
voit
sûr.
pas sur son téléphone de manière immédiate. Même chose sur un site web. Et donc, c'est grâce à cette, je vais dire, réactivité instantanée de l'utilisateur qu'on peut faciliter évidemment les intrusions système.
Vous avez l'impression que les gens se méfient moins quand c'est sur leur téléphone que sur leur ordinateur?
Je pense qu'effectivement, ils sont beaucoup plus réactifs parce que, ils voient le nom d'une personne qu'ils connaissent, ils voient le nom d'une entreprise qu'ils ont déjà consultée pour, par exemple, un achat en ligne. Ils reçoivent un message où on voit beaucoup pour l'instant, par exemple, les expéditeurs de colis, puisque c'est en cette fête de fin d'année que nous avons
Oui.
connu, bon, ben, recevoir le colis que nous avons commandé en ligne. Et donc, il y a eu des centaines de milliers de messages, soi-disant de bipost, soi-disant de DHL, qui informait la personne qu'il y avait un problème. Et donc la personne qui se connecte à ce moment-là en suivant le lien, ben, peut fournir des données personnelles qui vont profiter aux pirates.
Alors, y compris des villes ont été victimes comme ça. On peut citer Anvers qui se débat encore, je crois, avec les conséquences d'une des pires attaques jamais menées en Belgique.
Oui, c'est vrai que bon, on a connu également. Il se fait qu'Anvers a le grand port, évidemment, qui peut amener l'arrivée de produits mondiaux venant d'un peu partout. Et donc, on a incontestablement une volonté soit de collecter des données par rapport à cette activité, je vais dire, industrielle, mais également le fait de vouloir perturber, parce que du coup, le port et d'autres structures étant en partie bloquées dans leur activité, on peut s'imaginer que bon, ben, ça pose des problèmes en termes d'importation qui peut servir à l'économie de Belgique.
Ouais. Alors, une des tentatives des pirates, c'est donc de rentrer dans une structure informatique, de la paralyser et désormais, souvent, de demander une rançon. Et on dit que les victimes sont prêtes à payer sans appeler la police.
Oui, ça c'est vrai parce qu'en fait, généralement, une entreprise qui est susceptible d'avoir été touchée ou qui est touchée, eh bien, elle va penser dans un premier temps à sa réputation. Si effectivement l'information fuite et que le client apprend que des données personnelles le concernant ont pu être mises à disposition, ben, l'entreprise, elle fait faillite parce que tout le monde va fuir, tout le monde va prendre. Donc c'est vrai que les entreprises, dans un cas comme celui-là, vont plutôt prendre contact. Je vais dire avec des structures comme le CERT, la structure officielle qui gère les incidents numériques dans notre pays, demander de l'assistance et voilà, en essayant de rester le plus discret possible par rapport à ça. D'autres vont peut-être évidemment poser plainte, déposer plainte, parce que
Oui.
bon, ben, il faut trouver les auteurs, mais la plupart du temps, on constate que c'est la discrétion qui s'impose.
Qu'est-ce qui s'est passé finalement sur la fuite potentielle sur les clients de Belfius?
Je n'ai pas tous les détails à l'heure actuelle, mais il semblerait effectivement que des données liées au compte bancaire des personnes peuvent se trouver effectivement à disposition. Il y a aussi des informations personnelles de la personne, des personnes concernées qui peuvent être à disposition, ce qui veut dire que bon, ben, un pirate qui a la disponibilité de toutes ces informations et qui les vend éventuellement à des arnaqueurs, eh bien, on pourrait imaginer qu'on puisse de cette manière usurper l'identité de la personne. Et disposant de toutes ces informations, on peut imaginer que l'auteur pourrait, par exemple, se faire ouvrir un compte dans une banque tierce, mais au nom de la personne concernée. Et de cette manière, ben, il va proposer des objets en ligne d'occasion. Des gens vont le payer sur ce compte, mais c'est le nom de la personne, du coup, qui est utilisé. Et donc à ce moment-là, cette personne risque d'être à un moment donné convoquée à la police pour escroquerie alors qu'elle n'a rien à voir dedans.
Bien sûr. Alors, vous qui avez longtemps fait partie de la Computer Crime Unit de la police belge, est-ce que elle se spécialise justement face à tous ces nouveaux dangers? Et en 2022, à votre avis, qu'est-ce qu'elle a retenu comme leçon majeure?
Mais disons qu'il y a eu les tendances qui étaient liées à deux grands, je vais dire, phénomène, la fraude informatique et également les escroqueries par Internet qui étaient effectivement en augmentation. Alors, il faut être clair, ce ne sont pas les CCU régionales ou la FCCU qui mènent les enquêtes dans ce domaine, sauf si on a une intrusion système, une attaque informatique, là oui, mais par contre, dans un cas contraire où c'est une fraude financière, où c'est une arnaque à la carte de paiement, par exemple, eh bien là, ce sont des équipes qui sont en charge des fraudes financières ou autres, qui prennent en charge le dossier, mais les CCU viennent à ce moment-là en appui pour essayer de retrouver les données techniques qui permettent de localiser les auteurs. Et donc, voilà, on essaye pour l'instant de venir, si vous voulez, en appui, en assistance technique pour essayer de remonter des adresses IP. Il faut évidemment, à ce moment-là, avancer auprès des opérateurs. Et donc, il faut évidemment que le magistrat accorde un réquisitoire auprès des opérateurs.
Alors, ma dernière question, Olivier Bogart, elle sera sur WhatsApp. En Belgique, il y a 5 millions d'utilisateurs sur cette application. Et dernièrement, il y a eu 3 millions d'utilisateurs belges de WhatsApp piratés. Ce n'est pas que en Belgique, hein. Il y a des numéros de téléphone sur à peu près 500 millions d'utilisateurs WhatsApp qui ont été piratés. Et en Israël, on a très peur de ça. Est-ce que WhatsApp, c'est vraiment quelque chose de vulnérables et comment on peut faire pour être un petit peu moins en danger?
Mais disons que WhatsApp, comme on le sait, appartient au grand groupe Meta, hein, qui gère aussi Facebook, qui gère. Donc, on a effectivement peut-être des fragilités qui ont permis à des auteurs, des pirates, d'entrer dans des serveurs. Mais Heureusement, ici, d'après les informations, ce ne sont que les numéros de téléphone qui
Oui.
sont à disposition. Et donc, c'est ce qui fait que les gens peuvent recevoir des appels sur leur smartphone ou leur ligne fixe en fonction du numéro qu'ils ont renseigné sur WhatsApp. Et donc, ils reçoivent à ce moment-là des messages en leur demandant de rappeler. Donc, à ce stade, uniquement des numéros de téléphone, bon, ben, je ne donne pas suite quand je vois que le numéro vient notamment d'un pays étranger. Moi, j'ai reçu effectivement des messages qui venaient soi-disant de Tunisie, qui venaient soi-disant de... Enfin, des appels téléphoniques, pardon, excusez-moi.
Ouais.
Donc, voilà, je ne réponds pas parce que la particularité, c'est que si je réponds tout de suite, ça va stopper. On me demande de rappeler. Et là, je tombe sur une boîte vocale qui me dit « Veuillez patienter parce que le service est surchargé. » Et ça tourne pendant quelques minutes. Mais au bout du mois, sur ma facture de mon opérateur téléphonique, eh bien, je vois une augmentation de ma facture parce que c'est un appel qui est surtaxé, comme on dit.
Longue distance, bien sûr. Eh bien, si c'est que ça, ça serait déjà pas mal. Merci beaucoup, Olivier Bogart. Je rappelle que vous êtes expert en cybersécurité et espérons qu'on va trouver des moyens de faire baisser la cybercriminalité partout dans le monde et en Belgique en particulier.
Oui, je crois qu'il faut aussi se documenter le plus souvent possible pour que on puisse rester. Moi, j'invite tout le monde à aller sur le site CephoneWeb du Centre Cybersécurité Belgique et d'installer l'application CephoneWeb sur son téléphone, parce que grâce à ça, on reçoit des notifications et des informations très régulièrement et des bons conseils pour se préserver.
Merci beaucoup. Très bonne journée à vous, Olivier Bogart.
Merci à vous aussi.